FM 93. Cogeco Nouvelles.
Le vendredi 10 mai, ici Denis Couture, voici les nouvelles. Bon après-midi, le Canada serait prêt à reconnaître l'État palestinien sans l'approbation d'Israël, rapporte Radio-Canada. Pour une telle reconnaissance, il faudrait cependant que le Hamas soit exclu de la gouvernance. Cette position ressemble à celle exprimée la semaine dernière par le ministre des Affaires étrangères britannique, note la SRC. L'appui international à Israël commence à diminuer, selon certains observateurs. Et ce qui est officiel, c'est que le Canada impose des sanctions supplémentaires en réponse aux attaques terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre, selon l'annonce de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Les sanctions économiques visent 4 personnes faisant partie de l'axe de la résistance de l'Iran. Le Canada leur reproche d'avoir apporté leur soutien au Hamas en lui fournissant une formation militaire. Confronté à un hiver particulièrement doux et à un recul des exportations, Hydro-Québec affiche un bénéfice net en baisse de 655 millions pour le premier trimestre de 2024 par rapport à la même période l'an dernier. Son bénéfice net est passé de 2,2 milliards au premier trimestre de 2023 à 1,5 milliard au même trimestre en 2024. Le vice-président exécutif stratégie et finances, Maxime Aucoin, a indiqué que la société d'État songe maintenant à vendre sa participation minoritaire dans Dana TM4, une entreprise de motorisation électrique.
Donc, c'est une compagnie qui est en forte croissance. Au tout départ, naturellement, c'était déficitaire. Maintenant, c'est rendu profitable. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve que le moment est opportun parce que les projections financières pour les prochaines années sont très positives dans naturellement le marché des voitures électriques. La croissance est vraiment là.
Les travailleurs de la Sopfeu, membres du syndicat Unifor, se sont dotés d'un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun. La question des salaires fait notamment obstacle à une entente. Selon Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, ce point central de la négociation soulève l'enjeu de la rétention des travailleurs.
Parce qu'à 21 $ de l'heure comme poste d'entrée pour un travail qui est essentiellement saisonnier, c'est sûr qu'on parle d'un salaire de 25 à 30 000 $ par année. Là. Et donc, c'est pas avec ça qu'on va être capable de maintenir des effectifs qui ont le goût de revenir d'une année à l'autre.
La SOPFEU rappelle qu'elle est un service public et que ses employés saisonniers seront tenus d'assurer des services essentiels. Montréal aura l'un des 10 immeubles de 100 logements sociaux et abordables pour aînés autonomes du partenariat Unitraité, ou plutôt Unitraîné. Le gouvernement a annoncé cet après-midi qu'il sera bâti dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve d'ici le printemps 2026 au coût de 23,5 millions de $. L'Office municipal d'habitation de Montréal assurera ensuite la gestion de l'immeuble. Une forte tempête solaire balayera la terre, ce soir. Des pannes du réseau Internet et des systèmes de géolocalisation sont à craindre, préviennent les experts. Le phénomène pourrait aussi provoquer l'apparition d'aurores boréales dans des régions beaucoup plus au sud, dont Montréal. Olivier Hernandez est directeur du Planétarium de Montréal.
Mais ça prend certaines conditions pour les voir. Donc, ne pas rester dans la ville de Montréal ou aux abords de la ville de Montréal parce que il y a beaucoup de pollution lumineuse et comme les aurores, c'est un phénomène lumineux dans le ciel, il faut s'éloigner d'une lumière parasite qui pourrait nous empêcher de voir ça. Donc, il faut aller, si possible, dans des régions où on est moins affecté par la pollution lumineuse.
Cette tempête solaire pourrait être la plus forte depuis 2005. La vedette française du soccer, Kylian Mbappé, quittera le club Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer son départ après 7 années avec l'équipe. Il a eu de bons mots pour l'organisation.
Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester. Moi, j'ai choisi de l'aimer. Et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais à aucun moment, je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux.
Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
CFIX FM 93 est là pour vous. Que vous ayez besoin de personnel ou simplement de parler de vos prochaines promotions, vous êtes à la bonne place. Acheter de la publicité dans une radio parlée, ça marche. Demandez à nos clients. Lorsque vous souscrivez un plan de publicité à CFIX FM 93, vous avez accès à bien plus qu'une simple publicité. Chez nous, le client est plus qu'un client. N'attendez plus et contactez notre représentant aux ventes Stéphane Morneau au 418-905-0318 ou par courriel à vente au pluriel à commercial CFIX. Fixerimouski.com. Réfrigération GRL vous offre ses services en installation, réparation, l'entretien de vos systèmes de réfrigération commerciale, climatiseur et thermopompe. Réfrigération GRL vous invite à profiter de notre promotion sur les produits Mitsubishi Electric. Contactez-nous dès maintenant pour une soumission et sauvez sur l'installation de votre thermopompe. Pour tout besoin réfrigération, faites confiance à notre équipe d'expérience qui couvre le territoire de Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup. Réfrigération GRL, 220 Avenue du Havre, Rimouski, 418-724-7711.
C'est maintenant l'heure de trouver le meilleur endroit pour faire l'achat d'un produit électronique, informatique ou photographique. Tournez la roue chanceuse. La roue s'arrête sur... Le Centre Hi-Fi de Rivière-du-Loup. Vous gagnez le gros lot!
Je suis tellement contente d'aller au Centre Hi-Fi. C'est un magasin local. Ils ont de bons produits et ils donnent de bons conseils. En plus, ils font la livraison et l'installation.
Tout le monde est gagnant au Centre Hi-Fi Rivière-du-Loup.
Hey, salut, Denise. Je rentrerai pas travailler à la cantine. Je viens de gagner au Lotomax.
OK. Et puis demain?
Prochain tirage. 55 millions plus 4 max millions.
FM 93. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Élisabeth Crête, votre point de repère. Le
Québec maintenant. 15h06. Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Élisabeth Crête, je suis avec vous jusqu'à 18h30 aujourd'hui pour la première fois. Alors on se connaît peut-être pas les auditeurs, si vous êtes là la fin de semaine, ben bonjour à ceux que je connais, sinon 98985 pour nous rejoindre tout au long de l'émission. Je suis très bien entourée par contre, Jérémy Filosa, Catherine Beauchamp, bonjour.
Salut, salut.
Comment ça va?
Ah, ça va bien, c'est vendredi.
Oui, c'est vendredi, je vais vivre mon premier vendredi groovy aujourd'hui.
Excellent.
Très bienvenue. Excitée, oui, j'ai hâte à tout. Cet alcool rendu à 18h, ça va bien se prendre. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Il fait super beau en plus. Oui. Je sais que Patrick aime beaucoup commencer l'émission en parlant de la météo. Je pense que la météo va déterminer si ce sera une bonne émission pour Patrick aussi. Alors, aujourd'hui, ça aurait été une très, très bonne émission parce que c'est gros soleil à l'extérieur. Il fait très, très beau. On va commencer avec un petit tour de table avec les collaborateurs. Vous allez voir, il y a moi qui est nouvelle, mais tous les collaborateurs que vous connaissez sont là. Voilà, ça va rester tel que vous connaissez. Catherine, on va parler de Vision aujourd'hui, ça va pas très bien.
Non, ça va pas super bien. On en avait parlé la semaine dernière. Il y a énormément de tensions puisque la candidate d'Israël, Eden Golan, a été retenue. En fait, elle va passer en finale, la grande finale qui va se dérouler demain. Et ça crée beaucoup de tensions, évidemment, politiques parce que même le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a fait des mentions en disant qu'elle avait déjà gagné. Ça a suscité les foudres, évidemment, de d'autres participants. Il y a un participant du Pays-Bas qui veut pas être à sa côté de la candidate d'Israël. Et je crois que ça va amener une certaine agressivité, peut-être même dans les rues, autour du concours. Je sais que c'est très tendu à l'interne, donc on va en discuter avec Henri Arnaud.
Ça crée une ombre aussi sur l'événement, malheureusement, qui est habituellement un très bel événement.
C'est puis je veux dire, on dirait qu'à chaque année, c'est comme Cannes, il y a son lot de scandales qui arrivent avec... alors voilà, cette année, c'est ce qui se passe.
Voilà. Et Jérémy aussi, le CF Montréal, qui a finalement rencontré les médias pour faire le point sur le départ du directeur sportif, Olivier Renard.
Exactement, en parlant de scandale, là, on a fait le point aujourd'hui. Alors, je vais vous faire entendre un extrait sonore de Gabriel Gervais qui a parlé du départ d'Olivier Renard, qui a fait beaucoup jaser cette semaine. On va parler du passage de Lionel Messi, qui sera à Montréal demain soir.
C'était-tu tendu, hein? Est-ce que c'était tendu en conférence de presse?
Ben, très tendu, mais surtout qu'on a pas vraiment répondu aux questions concernant les détails du litige, concernant la situation de Mathieu Choignard, qu'on n'a pas voulu payer à sa juste valeur, on n'a pas voulu commenter tout ça, donc comme rendu un petit peu tout seul sur son île, malheureusement, notre ami Gabriel Germain, exactement. Alors, on va parler de Lionel Messi qui sera au Stade Saputo demain soir, reste encore des billets, soit dit en passant. Hockey féminin, les séries se poursuivent dès demain pour l'équipe montréalaise qui l'a échappé malheureusement hier soir, et on va parler un petit peu aussi de la Ligue nationale, avec deux matchs éliminatoires ce soir.
C'est très dommage, cette controverse autour du directeur sportif Olivier Renard, parce que tous les projecteurs sont sur Montréal en ce moment pour la visite de Lionel Messi.
Ah oui, le timing est épouvantable. Ouais, mais, tu sais, ils sont bons là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Probablement qu'ils auraient préféré attendre à la semaine prochaine avant de l'annoncer. La nouvelle, malheureusement, a été rapportée, mais malheureusement pour eux, je devrais dire. Mais c'est malheureusement, c'est un enchaînement. Écoute, il passe pas une année sans qu'il n'y ait pas deux, trois, quatre bombes, tu sais, qui ont aucun bon sens dans des clubs professionnels de sport. Alors, c'est malheureusement, c'est la routine habituelle.
Merci beaucoup, Jérémy.
Ça fait plaisir.
Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit la ministre fédérale Soraya Martinez-Ferrada qui a confié hier, en pleine période de questions, avoir subi un avortement ici au Canada à l'âge de 18 ans. Elle sera avec nous pour parler de cette révélation. On va parler budget et difficultés financières avec Isabelle Thibault. Thibault, également conseillère en finances personnelles depuis 25 ans. Aussi, on va parler à Jean Bernier, qui détient le record des dons effectués pour Emma Québec, 1600 dons. Qui a effectué donc don de 100 plaquettes. Il a 70 ans, il a fait son premier don à l'âge de 18 ans et son prochain est prévu pour mercredi prochain. Alors, il n'a pas terminé de donner. Il va être avec nous plus tard. Et le grand rendez-vous national sur le transport collectif avait lieu aujourd'hui à Drummondville. Plusieurs élus municipaux y étaient présents. La même semaine où on annonce la création de Mobilité Infra-Québec, une nouvelle agence chargée de gérer les grands projets de transport collectif au Québec. On va parler à Sandra Doyon, qui est directrice générale de Trajectoire Québec, pour connaître un peu les faits saillants de ce grand rassemblement aujourd'hui.
Le Québec maintenant.
Allons voter, le jour des élections, quelles que soient nos opinions.
Belle chanson pour annoncer la conversation que je vais avoir avec vous parce que j'ai devant moi deux parents d'enfants. Je pense que Catherine, ta fille autour de 20 ans,
ouais, si 21
je
me trompe ans, pas. Ouais.
Et Jérémy, t'as ton fils a 16 ans.
Exactement.
Je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine. En Belgique, on a abaissé l'âge du vote à 16 ans en vue des élections européennes qui vont se tenir en juin prochain. Il faut savoir en passant qu'en Belgique, le vote est obligatoire. C'est pas juste, tu y vas s'attendre, tu es obligé par la loi de te rendre et de voter.
Moi, je serais d'accord davantage avec ça.
Avec le vote obligatoire.
Ben oui.
Et il faut dire que la Belgique a suivi donc l'exemple de l'Allemagne, l'Autriche et Malte qui ont aussi abaissé l'âge du vote en vue de ce scrutin. Et je vais poser la question donc à Catherine et Jérémy, mais aussi aux auditeurs. 9-8-9-8-5, si vous êtes parents de jeunes autour de 16 ans, quelques années avant, quelques années après. Moi, la question que je veux vous poser ce matin, c'est avez-vous l'impression que vos jeunes à 16 ans ont la maturité pour voter, pour prendre une telle décision politique? Je vais commencer avec toi, Catherine.
Ben, moi, c'est drôle, je me pose la question depuis tantôt. Tu sais, je suis pas nécessairement contre de baisser l'âge à 16 ans, mais je vois pas ce que ça donnerait. Moi, j'ai l'impression que faut absolument que les personnes qui votent en connaissance de cause. Je trouve que les jeunes sont mal informés, sont souvent informés sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de faussetés là-dessus, beaucoup de fake news. Et moi, j'apprécierais que les jeunes, en fait, se documentent mieux. Fait que je me dis que logiquement, ça devrait être à 18 ans. Ça donne 2 ans de plus de majorité, ou en tout cas du moins de profondeur, justement. Je trouve que 16 ans, c'est comme voter juste sur les apparences.
Mais c'est un très bon point que tu amènes. Puis d'ailleurs, en Belgique, il y a eu des reportages, évidemment, dans les derniers jours sur cette décision d'abaisser le vote à 16 ans. Ils sont allés parler à des jeunes directement sur le terrain. Et t'as la moitié des jeunes qui disent « Ah oui, c'est le fun, on vote. » Et t'as l'autre moitié qui était assez confortable de dire « On connaît rien en politique.
Ouais.
On n'est pas informé, on ne sait pas. » Et là, on est obligé de prendre une décision sans trop savoir. Ce qu'ils ont fait, c'est une espèce de journée de formation à l'intérieur des écoles où il y a des élus qui sont venus parler de politique pour essayer d'intéresser les jeunes, du moins, à s'informer minimalement avant de prendre une telle décision. Mais effectivement, qu'à 16 ans, c'est souvent pas l'intérêt premier des jeunes.
Non, ça c'est certain. Ben écoute, moi je vais y aller avec ce que je vois de mon jeune de 16 ans qui honnêtement ne semble avoir aucune idée, zéro. Et donc je sais pas, je pense que au niveau provincial, il y aurait peut-être une idée pour qui il voterait, mais je suis pas certain qu'il connaît les noms des partis ou quoi que ce soit. Mais j'ai comme l'impression que nous on en connaissait plus. Je vais m'expliquer, c'est que à l'époque, on regardait par exemple la télévision, il y avait 5 chaînes. Et à l'heure du souper, ben c'était souvent nos parents qui prenaient le contrôle de la télévision à 18h, puis c'était des bulletins de nouvelles.
Bernard de Rome.
Ben, exactement. Oui, voilà. Et on regardait des choses qu'on n'aurait probablement jamais regardées, pour lesquelles on n'avait aucun intérêt, mais veut pas, on apprenait des choses et on connaissait au moins les bases, l'actualité, qu'est-ce qui se passait, alors que les jeunes d'aujourd'hui, tout est ciblé directement dans leur téléphone par les algorithmes. Donc, si eux s'intéressent au tennis, au jardinage et je sais pas trop quoi, aux casquettes,
au maquillage,
c'est tout ce qu'ils voient. C'est comme le reste, ça existe pas.
Mais c'est un très bon point que tu amènes, puis ça me fait penser à Paul Arcand. Souvent dit qu'au cours de sa carrière, une chose qui lui faisait plaisir d'entendre, c'était de savoir qu'il avait passé plusieurs générations. Tu sais, il y avait des gens qui disaient, moi j'ai été obligé de vous écouter en auto avec mon père. Maintenant, si quelqu'un écoute Paul Arcand ou la radio dans sa voiture, souvent le jeune a des écouteurs puis il écoute d'autres choses sur son téléphone.
Ouais.
Est-ce qu'à 16 ans aujourd'hui en 2024, on est autant exposé à l'information politique qu'on l'était à l'époque? C'est une bonne question. Là,
ben, absolument pas. Je pense que Jérémy a entièrement raison sur le fait que qu'en fait, qu'un jeune qui ne veut pas être informé ou qui n'a aucun intérêt ne sera jamais, exact. Mais jamais exposé à une dose d'information. Même des fois, tu sais, ma fille a 21 ans, ce qui est quand même 5 ans de plus que l'âge à laquelle on propose peut-être de les faire voter. Puis, tu sais, des fois, elle me lance des trucs, puis je suis comme impressionnée. Je dis, mon Dieu, où t'es allé chercher ça, où t'es au courant de ça, comment? Mm-hmm. Fait que, elle commence...